Chapitre 6. La Billikine matée. Le temps pour lequel Mademoiselle Twinkleton et Rosa avaient pris un logement chez Madame Billikine, grâce à la candeur trompée de M. Grudgers, arrivait rapidement à son terme. L'homme anguleux continuait à ne pas se douter qu'un ciel sans nuages n'avait pas toujours régné dans cette partie de Southampton Street, Bloomsbury Square. Il est toujours bien séant quand la prévoyance d'un ami nous a fait prendre la traverse pour nous abréger le chemin et, par erreur, nous a plongé dans un bois d'épines ou enfoncé dans un marais. Il est toujours bien séant de cacher au conseiller mal avisé les conséquences de ses avis. De plus, il y a une certaine sagesse à s'abstenir sous peine de supporter un nouveau supplice consistant dans les excuses très humbles, les regrets et les protestations de ce mauvais guide. M. Grudgers, et nos deux dames le savaient, se serait accablé lui-même de reproches pour leur avoir causé quelques désagréments, d'autant plus que la propriétaire des chambres garnies était une de ses parentes éloignées. On aurait donc pu supposer qu'il avait recherché pour elle un marché avantageux au détriment d'autrui. On ne lui avait donc pas parlé des rapports de neutralité armée qui existaient à Bloomsbury Square entre les deux parties belligérantes, pas même lorsque, après la rupture ouverte, chacune d'elles s'était retirée derrière ses lignes de fortification. Le temps du supplice de Mademoiselle Twinkleton et de Rosa ne pouvait pas se prolonger beaucoup pour deux raisons. Nous avons dit que le terme de la location approchait, et avec lui, la liberté de changer de lieu, et la fin des vacances allait rappeler Mademoiselle Twinkleton à ses devoirs dans la maison des nonnes. Elle devait y retourner seule. Rosa, comme on le sait déjà, avait trop peur de John Jasper, même avant la tentative d'enlèvement, pour oser se retrouver dans la même ville que lui. Après l'enlèvement, on peut supposer que sa résolution était encore plus inébranlable. Elle devait donc rester à Londres, sans avoir d'ailleurs aucune idée du lieu où elle résiderait. Son cher vieux tuteur choisirait la résidence. À partir du jour de leur séparation, la maîtresse et l'élève devaient donc conserver peu de rapports ensemble. Elles étaient même destinées à en avoir moins qu'elles ne le prévoyaient. Cette séparation commençait à changer déjà la nature de leur relation. Habituellement, nous ne concevons pas une répulsion insurmontable pour le boucher ou le boulanger qui nous fournit la nourriture du corps, à moins que la qualité de leur fourniture ne soit particulièrement désagréable ou leur prix trop exagéré. Nous sommes généralement assez aimables envers le marchand de nouveautés et le gantier. Les femmes déploient bien des grâces envers leurs marchandes de mode. D'où vient donc que l'élève regarde toujours son professeur comme son ennemi naturel? Laissons de côté les exemples que nous pourrions prendre dans le monde masculin, en commençant par le professeur de l'école de grammaire, en passant par Harrow et Rugby, et terminant par la dernière bataille du bachelier contre le dominé d'Oxford ou de Cambridge. Laissons de côté tout cela et ne tenons compte que des exemples puisés dans le sexe faible et charmant. Nous n'en aurons pas de moins étonnantes choses à dire, et notre conclusion n'en sera pas moins juste. Les élèves féminines n'éprouvent pas seules ce sentiment, quoiqu'elles le manifestent d'une façon plus désagréable. Et pourquoi, comme dirait Bouton de Rose? Pourquoi Mademoiselle Twinkleton, à la maison des nonnes, gardait-elle ce visage sévère et compassé pendant les heures consacrées aux jeunes filles confiées à ses soins? Pourquoi faisait-elle plus attention qu'il n'était nécessaire à la légèreté de Mademoiselle Reynolds, aux plaisanteries de Mademoiselle Ferdinand et aux éclats de rire de Mademoiselle Juggles? Pourquoi ne montrait-elle pas son véritable caractère, ses heureux souvenirs des eaux et ce nigaud de M. Porter que, dans une demi-solitude en compagnie de Mademoiselle Tisbert, loin des jeunes oreilles de ses élèves, dont les jeunes cœurs se seraient bien réjouis à l'idée que la maîtresse nourrissait des amitiés, des regrets et des faiblesses? Et pourquoi Mademoiselle Ferdinand, Mademoiselle Reynolds et Mademoiselle Jiggle se donnaient-elles tant de peine pour se montrer sur leurs plus mauvais jours et ne laissaient-elles paraître les qualités qui les rendaient chères à leur famille et à leurs amis qu'en cachette de leur institutrice? Hélas! Pourquoi Rosa elle-même, la favorite et l'enfant gâté de la vieille fille, se moquait-elle de ses pyramides et trouvait-elle ses lectures assommantes ? Nous ne faisons pas ces questions pour y répondre, on l'a peut-être déjà compris. Rosa n'aurait pu les résoudre, pas plus que Mademoiselle Twinkleton. Pas plus qu'elle ne pouvait prévoir toutes deux des événements importants qui devaient avoir lieu avant leur départ de chez la Billikin. Tout ce que pouvaient faire l'une et l'autre était peut-être de s'apercevoir vaguement d'un changement dans leur relation. Elles étaient sur le point de se séparer et, de concert, l'institutrice et l'élève avaient modifié leur manière d'être, d'abord d'une façon presque insensible. Elles étaient devenues comme une nièce et une vieille fille de tante. D'un côté, commençaient à se trahir quelques-unes des habitudes de la vieillesse. De l'autre, éclatait sans cesse la gaieté séduisante des 17 ans. Mademoiselle Twinkleton, dans sa modestie classique, se vantait de n'être pas habile à lire les manifestations de la tendre passion. Cependant, elle ne pouvait se prétendre assez aveugle pour ne pas s'être aperçue, après quelques visites de l'ex-lieutenant, que son élève était menacée par un autre ennemi que John Jasper. Elle reconnut même de très bonne heure le péril des visites de Tartar et commença de donner certains avertissements, ouvrage ingrat et inutile, comme le monstre de laine qui croissait lentement sous ses mains, car Rosa n'était pas une fille commode à sermonner. Les sermons étaient surtout en pure perte s'ils roulaient sur un sujet qui ne plaisait pas au petit jugement impérial de Bouton de Rose. Ainsi, quand Mademoiselle Twinkleton, le soir, après une scène à la Desdemone et le départ de M. Tartar, toujours un peu attardé à prendre le large, disait « Rosa, ma chère, ne trouvez-vous pas que M. Tartar vient ici plus souvent que les convenances ne le permettent ?» Rosa faisait la moue de la façon la plus charmante et prononçait le mot qui avait arrêté tant de fois les effusions du pauvre Eddy. « Absurde !» Une fois Mademoiselle Twinkleton, après une soirée tout à fait brillante, toussa pour s'éclaircir la voix et voulut pousser plus loin l'admonestation. « Rosa, ma chère, dit-elle, M. Tartar n'est-il pas un ennuyeux avec ses longues histoires d'aventures en pays étrangers ? À votre place, je ne l'écouterai pas avec une attention qui l'encourage et qui peut lui faire croire qu'il vous amuse. Vraiment, il raconte d'horribles choses qui ne sont point faites pour une jeune fille. Rosa, vous flattez trop les goûts de ce marin. » Les yeux de Mademoiselle Rosa étincelèrent malgré leur douceur accoutumée. Elle coupa court à la conversation avec une surprenante brusquerie et, les lèvres un peu serrées, répondit « Vraiment, je vous remercie beaucoup. » Mademoiselle Twinkleton, en une autre occasion, laissa voir ce qu'elle pensait. La bonne dame reconnaissait bien qu'il ne s'agissait plus d'un péril à craindre, mais que le mal était fait sans remède. Elle commença donc ses observations d'une façon tout à fait différente et dit « Rosa, ma chère, je crains vraiment que ce marin n'ait l'intention de vous enlever. » Alors Rosa devint pourpre, ce qui la rendit toute charmante. Elle ne fit pas la moue, ne pinça pas les lèvres, mais prit un air séduisant d'agitation et de joie mal contenue, et répondit « Oh, chère Mademoiselle Twinkleton, pourquoi me taquinez-vous ainsi à cause de lui ? Ne trouvez-vous pas qu'il est très, très, très bien ?» Après cela, il restait vraiment peu de choses à dire, et tout avertissement devenait superflu. Cependant, le temps des félicitations n'était pas encore arrivé, en sorte que cette conversation ne fut pas reprise. Ce long silence tourna au profit du monstre de haine qui, désormais, avança avec une rapidité menaçante pour la chaise prédestinée. C'est à cette période que se rattache un incident considérable qui se produit dans Southampton Street. Madame Billikin vit s'ouvrir devant elle la charmante perspective de louer son appartement aussitôt qu'il serait libre. Or, les circonstances mirent Rosa et Mademoiselle Twinkleton au courant de la situation qui devait combler Madame Billikin d'une joie si pure. L'aventure commença sous forme d'un équipage irréprochable, d'une voiture magnifique portant des couronnes sur ses panneaux, traînée par 2 chevaux de prix, surmontée d'un cocher et d'un valet de pied d'une tenue irréprochable. La voiture s'arrêta devant la porte à une heure qui n'était plus celle des visites et qui n'était pas encore celle de la promenade. Son arrivée attira tout le monde aux fenêtres et tous les boutiquiers aux portes. C'est que l'hôtel garni de Madame Billikin, par une bizarrerie du sort jaloux, ne recevait pas souvent de pareilles visites et l'on n'avait jamais vu de voiture blasonnée s'arrêter au pied de la maison. Le triple coup de marteau du valet de pied poudré, qui descendit de son siège élevé, avertit la rue entière. C'étaient trois coups solennels, délibérés, lourds, bien distancés, presque terribles, rappelant vaguement les avertissements funèbres du Weihengericht ou de quelque autre tribunal secret du Moyen-Âge. Après avoir accompli son office, le valet de pied, sans attendre que la porte s'ouvrit, on pouvait être sûr de la voir s'ouvrir après cela, retourna vers la voiture, abaissa le marchepied et tendit son bras pour servir de rampe à la main d'une dame qui produisit aussitôt une seconde sensation plus vive encore que le carrosse. Elle pouvait avoir de 55 à 60 ans, ainsi que Rosa et Mademoiselle Twinkleton, regardant à la dérobée par la fenêtre, purent en juger quand elle descendit de voiture et s'avança vers la maison. Elle était grande, avec des cheveux un peu gris, et portait une opulente robe noire, coupée à l'ancienne mode. C'était manifestement une vieille dame de haute condition. Elle marchait d'un pas aussi lent et aussi majestueux que l'avaient été les coups de marteau, et elle tenait ses bras croisés, avec une grande apparence de dévotion rigide, magnifique à observer, mais qui oppressait tout de suite l'observateur. Tout se rangeait devant elle. La porte eut l'air de s'incliner pour présenter ses humbles excuses. Cette porte sentait qu'elle manquait de respectabilité. La façade sembla rougir de la vulgarité de ses briques et de son mortier plébéien. Il est à remarquer aussi que cette dame était servie par des personnes d'une gravité qui correspondait à la sienne. Ni le cocher sur son siège, ni le valet de pied ne tournèrent la tête et ne se relâchèrent de leur sérieux, malgré les séductions en bonnet blanc qui sortaient de toutes les croisées. La dame gravit le perron. La porte lui fut ouverte par une servante. Les domestiques femelles convenaient à un établissement aussi pudibond que celui de la Billikin, mais une arrivée en calèche blasonnée devait naturellement retentir avec une rapidité extraordinaire dans toute la maison, et la propriétaire elle-même se trouvait dans le vestibule au moment où la majestueuse dame y pénétra. Elle était enveloppée de son châle et toujours frissonnante, mais son visage était illuminé d'un charmant sourire, et elle accueillit la vieille dame par une profonde révérence. La majestueuse dame prit la parole. Elle avait un ton de gravité terrible, elle ressemblait à Mademoiselle Siddons dans les plus sombres parties du rôle de Lady Macbeth. Le son mesuré de sa voix, le « Ah !» prolongé par lequel elle commençait toutes ses phrases et le « Hum !» par lequel elle les finissait, rappelait les interminables gémissements de Joanna Southcote. « Ah ! Je désire voir la maîtresse de la maison !» Hum. À quoi la Billikin répondit avec une extrême candeur. Je ne vous tromperai pas, madame. Peut-être devrais-je dire, my lady, je suis la maîtresse de la maison. Ah. Vous louez des appartements? Hum. Madame ou my lady? Ah. Je ne suis pas my lady. Dites, madame, la vie est courte et l'on ne doit pas parler inutilement. Soyez assez bonne pour continuer. Ainsi admonestée, Madame Billikin frissonna plus fort, serra son châle autour d'elle et répondit « Pour être franche avec vous, madame, ce que je fais... Ah ! Avez-vous des chambres vacantes, madame ? Quel est votre nom ? La Billikin répliqua avec une dignité majestueuse, mêlée d'un certain air de dignité blessée. « Il est sur la plaque de la porte, madame, et je n'ai point de honte qu'on me le dise. Billikin. Ah ! Billikin. Mariée ? Hum !» La Biliquine fit une protestation muette en se voyant ainsi poussée au pied du mur, mais le souvenir de l'équipage la calma. « Ceci est une question, madame, à laquelle je ne réponds jamais, vu qu'il est difficile à une femme seule. Oh ! Et obligée d'avoir son nom sur sa porte, il est difficile, dis-je, de se garder de certains ennuis. Que ne peut-il arriver à une femme dont le mari est mort et enterré depuis des années ? Ah ! Cela suffit, je comprends. Veuve. Hum ! » La Biliquine se sentit révoltée par cette pression exercée sur une femme seule et malade. « Pour ne pas vous tromper, dit-elle, ce que je ne ferai pas pour tout au monde, madame. Oui. Ah ! Veuve, maintenant, quelles chambres avez-vous à louer ? À quel étage ? Hum ? Je ne puis dire que j'en ai aucune aujourd'hui, madame, mais le premier et le second étage seront libres dans quelques jours, après congé donné, à cause du langage inconvenant que m'a tenu la locataire. Elle serait bien restée un an chez moi, mais je suis naturellement désireuse d'avoir mieux qu'elle pour les plus belles chambres de la maison. » Là-dessus, la malade s'arrêta naturellement pour reprendre haleine. Une personne accoutumée à la voix aurait compris qu'elle venait d'échapper à une série d'évanouissements. La dame majestueuse n'en eut même pas un soupçon et continua. « Oh ! Dans quelques jours ? Hmm ? Peut-être cela pourrait-il s'arranger si l'appartement me convient. Cela est indispensable. Je tiens beaucoup à la position. Le prix est relativement une chose de peu d'importance. » Il n'y eut aucune affectation, pas même de candeur, dans la façon dont Madame Biliquine posa la main sur son cœur. Le prix est relativement une chose de peu d'importance. Et ces paroles qui sortaient de la bouche d'une dame venue dans sa propre voiture et dont la haute position n'était pas douteuse. Jamais de pareils mots ne furent prononcés à l'oreille d'une propriétaire d'appartements meublés, à moins que ce n'ait été par un fou. Mais la position, c'était là, cette merveilleuse vieille dame l'avait dit, un point indispensable qui expliquait sa libéralité. Et la Biliquine ne réussirait pas à transformer la nouvelle venue en une véritable mine d'or, elle ne lui ferait pas payer un loyer inconnu jusque-là dans les annales de Bloomsbury Square. Oh que si! Même la Biliquine songeait déjà à pousser cette locataire tombée du ciel dans la voie des extras, de façon à rendre l'addition tout à fait satisfaisante. 45 shillings par semaine, c'était le prix que son parent avait réussi à lui faire accepter pour la location de son appartement à cette arrogante personne dont elle ne voulait pas prononcer le nom, même tout bas. Qu'était-ce que cela auprès des 5 livres et peut-être même des 5 guinées qu'elle pouvait si aisément faire sortir d'une bourse gonflée à crever et gardée par une imbécile ? La Biliquine, aussi enchantée que surprise, se remit cependant avant que la dame eût tout à fait perdu patience et dit, avec une autre révérence, d'un air qui montrait qu'elle devenait tout à fait l'esclave de la mystérieuse dame. « Je ne vous cacherai pas, madame, loin de là, que les chambres dont je vous ai parlé sont à votre service pour les visiter quand il vous plaira. Je me soucie peu de savoir si la personne qui les occupe en sera fâchée ou non. Comment peut-on s'attendre à ce que... » Elle allait parler du prix que payait Rosa et perdre ainsi ses espérances dorées, mais elle s'arrêta heureusement à propos, sous prétexte d'un spasme que la dame ne parut pas voir. « Je ne m'attends pas, reprit-elle, à ce que les gens qui vont s'en aller, et Dieu sait qu'elles méritent leur congé, osent me fermer des portes qui sont mes portes à moi pour empêcher les autres d'y entrer. Je le répète, je ne prévois pas cela. »« Oh ! » dit la vieille dame. « Alors, je vais voir l'appartement tout de suite. »« Hum ? » ?»« Certainement, madame, vous le pouvez. Vous êtes aussi libre que l'air. Il n'y a rien à cacher ici. » Excepté ce qui appartient aux locataires. Et qu'est-ce que cela me fait, les locataires ? Là-dessus, Madame Biliquine montra le chemin et gravit l'escalier jusqu'au premier étage, non sans remarquer en route, au risque de perdre l'haleine, que les escaliers où l'on passe beaucoup s'usent aisément et qu'il y a de certaines gens qui ne prennent point garde à cela, des gens sans éducation ni sentiment, comme madame elle-même a dû en trouver souvent sur son chemin. » À quoi madame fit une brève réponse. « Hum ?» Cette interjection se prolongea tout de juste assez pour permettre d'arriver à la porte du salon, où madame Billikin frappa hardiment et rudement, avec un sentiment d'aise et de vengeance, le plus vif qu'elle eût peut-être éprouvé depuis la mort du regretté monsieur Billikin. Ayant reçu l'ordre de ne pas entrer dans les chambres occupées par mademoiselle Twinkleton depuis le jour de la fameuse explication, elle reprenait ses droits de façon la mieux faite pour contrarier son ennemie. Mademoiselle Twinkleton ne pouvait l'empêcher de montrer les appartements à de nouveaux locataires. Aussi la Billikin connaissait-elle bien ses privilèges, et au lieu de dire timidement « Puis-je me permettre de vous déranger un moment et voudrez-vous me pardonner l'ennui que cela pourra vous causer ?» elle s'annonçait avec la force d'une trompe d'airain ou d'un corps de bachane. Un peu plus, elle aurait crié « Ouvrez tout de suite, j'ai le droit d'entrer et malheur à qui essaiera de m'en empêcher. Plus cela vous ennuie, plus je suis contente. » Mademoiselle Twinkleton ouvrit. Rosa était encore à la fenêtre. Madame Billikin regarda mademoiselle Twinkleton avec un froncement de sourcils qui, en toute autre occasion, se serait changé en un bon évanouissement. Cependant, elle expliqua en deux mots pourquoi elle venait avec aussi peu de cérémonie. « Une dame pour l'appartement, mademoiselle, » dit-elle à Rosa, ne voulant point s'adresser à mademoiselle Twinkleton. « J'espère que vous ne trouverez aucune objection à ce que j'use de mes droits dans ma propre maison. »« Hum ?» ajouta la vieille dame comme appendice à la tirade de madame Billikin. « Certainement, entrez, madame Billikin. Je suis sûre que mademoiselle Twinkleton n'y fera aucune objection, » dit Rosa fort gracieusement. « Oh !» fit la vieille dame. « Si la maîtresse de la maison désire entrer dans cette chambre pour ses affaires, nous n'avons pas à nous y opposer, » répliqua mademoiselle Twinkleton avec une politesse qui voulait être glacée. « Ah !» accentua la vieille dame. « Très bien, mademoiselle, je ne vous cacherai pas que cela m'épargne un ennui, » répondit la Billikin en se tournant vers la dame qui aurait aussi bien pu être aveugle tant elle paraissait peu s'apercevoir de la présence de deux autres personnes dans la chambre. « Ceci est le salon, madame, et c'est une jolie pièce, quoique je sois obligée de le dire, devant des personnes qui ont peu de respect pour les opinions des autres. La vue sur la rue est fort agréable aussi, madame, et beaucoup de gens en seraient satisfaits, d'autant qu'il n'y a pas en face de servantes impertinentes pour regarder chez vous dès que la fenêtre est ouverte. » « Ah !» remarqua la vieille dame avec lucidité, tout en refusant la chaise que lui offrait l'hospitalière mademoiselle Twinkleton. Mais mademoiselle Twinkleton elle-même reprit « Rosa, ma chère, me suis-je trompée? Vous devez le savoir mieux que moi, car vos yeux sont plus jeunes. Mais il m'a semblé que deux servantes, de l'autre côté de la rue, nous ont toujours beaucoup gênés et ne cessent de regarder ici. Ne nous empêchent-elles pas d'ouvrir nos fenêtres ?» « Oh !» dit la vieille dame par forme de commentaire, tandis que la physionomie de madame Billikin devint furieuse. La colère était plus frappante chez une personne si faible. « Non, chère madame Twinkleton, » répondit Rosa d'un air de charmante innocence. « Vous ne vous trompez pas, elles nous ont gênés beaucoup, beaucoup, presque tous les jours, ainsi qu'un affreux homme armé d'une lorgnette d'opéra. »« Oh !» Madame Billikin sentit le besoin de fortifier sa position. Elle le fit avec calme et candeur. « Si je vous disais, madame, qu'il n'y a pas dans cette maison des personnes disposées à dire des choses méchantes sur les plus belles chambres, je vous tromperais, ce que je ne veux pas faire. Par conséquent, comme vous avez vu cette pièce et qu'on ne peut arrêter des langues qui devraient être honteuses si elles étaient susceptibles de honte, nous irons visiter les autres salles. » Et ce sont aussi de belles pièces qui valent bien 6 livres ou même 6 guinées par semaine, en dépit de certaines matrones dont le rang ne s'élève pas au-dessus de celui de maîtresse de pension et encore de seconde classe et qui sont aussi venimeuses que des chats mouchetés. Que peut-on attendre d'un pareil monde ? « Rosa, ma chère, fit observer Mademoiselle Twinkleton d'une voix tranquille et comme si elle n'eût pas entendu un mot du précédent résumé. « Combien nous a-t-on demandé pour ces jolies chambres, un peu plus haut, qui sont plus agréables que celles-ci? Est-ce 32 shillings ou 1,10 $ ?» La réponse de Rosa fut inintelligible, en sorte que nous ne pouvons donner ce chiffre exactement. On ne peut dire non plus si la vieille dame entendit toutes ces remarques, mais on doit supposer qu'elles ne furent pas perdues pour Madame Billikin. « Ah !» dit la dame, les mains jointes, quittant pour la première fois son attitude majestueuse pour prendre dans sa poche une règle de charpentier qu'elle ouvrit. Elle parlait aussi pour la première fois depuis son entrée au salon. « Ah ! Non ! « Nous ne quitterons pas encore l'appartement de ces personnes. Madame... Ah, Billikin. La chambre me paraît ici assez bien, mais petite. Comme j'apporterai mon piano à queue, une grande commode, une étagère, une bibliothèque pour des livres de dévotion, je n'en lis jamais d'autres. Une table et différents autres meubles qui demandent de l'espace, il m'est nécessaire de connaître les dimensions exactes. Pendant 10 minutes, tandis que Madame Billikin la regardait d'un air surpris, et Mademoiselle Twinkleton et Rosa, d'un air de tranquille amusement, la vieille dame mesura la longueur de la chambre, ainsi que l'espace compris entre le mur et la cheminée, non sans s'arrêter de temps en temps pour examiner sur la tapisserie une tache de la grosseur d'un grain de café ou d'une tête d'épingle. Chacune des dimensions prises, et surtout chacune de ces découvertes sur le papier, était accompagnée de commentaires avec le « Ah !» le « Hum !» et le « Oh !» Le tout approprié à la question de savoir si son piano pourrait se placer ici, son sofa là, sa commode favorite à cet endroit. Il semblait clair qu'elle avait 3 commodes, toutes plus grandes les unes que les autres, mais qu'une seule était destinée au salon. Sa bibliothèque enfin dans cette autre, etc., etc. Aussi pressée maintenant de sortir de la forteresse de son ennemi qu'elle ne l'avait été d'y entrer, la Billikin supportait ce délai et ses minuties avec un air de terrible fatigue. On sentait venir l'évanouissement. Mais elle était trop fortement éblouie par une locataire qui apportait tant de meubles et venait dans une voiture à elle pour penser seulement à contrarier ses mesurages. Sa patience, aussi bien que celle de Rosa et de Mademoiselle Twinkleton, fut enfin récompensée. La curieuse vieille dame avait mesuré, sans doute à sa satisfaction, la hauteur et la largeur des murs, des portes, des fenêtres, de la cheminée, de la grille, et de toute autre chose à quoi pouvait s'appliquer la règle de charpentier. On voyait bien pourtant qu'elle n'en avait pas fini avec l'appartement, car elle s'était assise sans y être invitée cette fois, et commençait une autre série d'observations qu'elle regardait sans doute comme indispensable avant de louer un appartement. « Ah ! J'ai remarqué certaines taches sur la tapisserie. La chambre aurait probablement besoin d'être tapissée à neuf. Y aurait-il quelque objection ?» Un moment de réflexion de la part de Madame Billikin sur la mine d'or et le moyen de l'exploiter. Réponse : non, point d'objection. Si Madame louait le logis, on retapisserait cette chambre puisque cela semblait absolument nécessaire, bien qu'elle fût certainement en très bon état. Ah ! Celle-ci avait remarqué que les serrures, découvertes faites en mesurant, n'étaient pas en bon état. Comme elle avait des meubles d'une grande valeur, elle aimait à les enfermer. Y aurait-il quelque objection, etc., etc., à les remplacer ? Autre réflexion de la part de Madame Billikin, embrassant non seulement la mine d'or ci-dessus, mais la sécurité du paiement et la longueur probable du bail souscrit par une personne qui avait tant d'objets précieux et ne devait pas désirer de les déménager souvent. Oui, les serrures pourraient être remplacées si on y tenait absolument, bien qu'elles eussent paru jusque-là très bonnes. Les affaires prenaient une tournure plaisante aux yeux des locataires actuels et l'on pouvait juger du contentement de Mademoiselle Twinkleton par l'activité avec laquelle elle continuait de broder une pâte rouge à son monstre en laine, laquelle patte reposait sur un sol jaune et sous un arbre bleu. Et aussi à la façon dont Rosa faisait semblant de continuer sa lecture, dans un livre qui n'était rien moins qu'un recueil de voyages et d'aventures en Orient. Ce double manège ne plaisait guère à Madame Billikin, toujours debout et jouant nerveusement avec son châle. Elle se serait certainement évanouie sans la présence de l'ennemi. Ah ! La dame avait aussi observé qu'il y avait de grands jours sous les portes. L'automne arrivait avec ses vents glacés. La vie n'est qu'une bulle de savon pour tous ceux qui réfléchissent, et tout le monde devrait réfléchir. Mais tout le monde est tenu d'éviter le suicide. Il faut donc empêcher les courants d'air. Il n'y aurait aucune objection, sans doute, à l'application d'une planche au bas de ses portes. Même réponse que devant, de la part de Madame Billikin, avec la réflexion additionnelle que cela coûterait fort peu de choses, et d'ailleurs les mêmes réserves. Ah, c'est à peu près tout. Non, attendez, il n'y a pas autour des corniches de clous accrochés pour suspendre solidement des tableaux de prix. Or, Madame en avait et voulait les accrocher fortement. Y aurait-il, etc., etc. Même riposte. Madame Billikin ne devrait pourtant pas consentir à ces clous qui causeraient des dégâts presque aussi coûteux que la tapisserie neuve. Cependant, etc., etc. Et réponse comme ci-dessus. Ah ! Encore une chose, et c'était positivement la dernière. La grille était démodée, ce qui ne l'aurait pas empêchée d'être acceptable, mais elle était trop petite. L'automne, les vents froids, etc. Y aurait-il ? Etc., etc. Réflexion mentale de la Billikin, il faut en finir, ou bien la mine d'or ne couvrira pas ses frais. Mais comme ceci devait être la fin et qu'il s'agissait de 5 livres par semaine, etc. Réponse favorable avec un mouvement d'impatience qui ne réussit pas à se dissimuler. La dame grave se leva et annonça qu'elle était disposée à voir les autres pièces. Sa règle à 2 branches rentra dans sa poche, d'où elle allait bientôt ressortir de nouveau. Elle joignit les mains, la voilà prête à partir. Madame Billikin sentait bien qu'elle n'avait pas remporté un succès décisif. Aussi, elle manifesta un grand empressement à conduire la visiteuse dans le reste de l'appartement. Elles disparurent et nous sommes forcés de dire qu'une certaine gaieté éclata dans le salon. L'ombre et le mystère s'étendront toujours sur la suite des événements, ce qui tient à ce que nous n'avons point accompagné la mine d'or et la Billikin dans les appartements supérieurs où elles conversent sans témoin. Tous les renseignements qu'on a pu se procurer sont que la règle de charpentier fut de nouveau mise en réquisition et que la dame continua ses requêtes, ressemblant fort à des ordres, à propos de réparations légères et de changements insignifiants, mais ces changements étaient la condition du transfert de la mine d'or dans la maison et les « Ah !» et les « Oh !» les « allez toujours. Heureusement, nous retrouvons le fil égaré de l'aventure au moment où la future locataire et la future hôtesse revinrent dans le salon, sous le prétexte donné par la vieille dame qu'elle avait oublié de mesurer la profondeur de la cheminée. La Billikin, cette fois, frappa un coup qui n'était encore que timidité pure. Il ne s'était fait aucun changement pendant ces quelques minutes dans les positions respectives ou les occupations de Mademoiselle Twinkleton et de Rosa. On doit leur rendre la justice de dire qu'elles ne manifestèrent pas l'ennui que devait leur causer cette seconde invasion. Préparées peut-être par la première scène, elles ne montrèrent aucune surprise. Madame Billikin, pressant son cœur de sa main, comme s'il allait s'échapper, demeura silencieuse, tandis que la mesure sortait de nouveau de la poche de la dame. Elle parut saisie d'un sentiment voisin du désespoir en voyant cette personne extraordinaire se laisser tomber sur une chaise après en avoir demandé et toutefois obtenu la permission, comme si elle était décidée à terminer l'affaire dans cette pièce même et non dans une autre. « Il semblerait plus commode, madame, d'aller dans mon salon, qui est le salon de derrière, auquel je tiens, et dont je ne me séparerai jamais, car je ne veux pas vous tromper. Cela vaut mieux, dis-je, que de déranger des personnes qui sont absolues dans leurs idées et pleines de subterfuges. » La dame grave lui coupa la parole avec une suavité si preste que Madame Bilikin en demeura vaincue. Ah! Si ces personnes veulent bien me le permettre, nous dirons ici les quelques mots qui nous restent à dire. Ces fenêtres donnent sur la rue et j'ai une grande aversion pour les chambres de derrière. Nous ne nous opposons pas à ce que vous restiez, madame, n'est-ce pas, Rosa ? Dit Mademoiselle Twinkleton, dont la cordialité venait de l'ennui évident que cette politesse causait à Madame Bilikin. Certainement non, chère demoiselle Twinkleton. Au contraire, nous en serions très, très honorés. Il ne restait qu'à se soumettre à une chose inévitable. La propriétaire se laissa donc choir dans une chaise plutôt qu'elle ne s'y assit, souhaitant d'être partout ailleurs que là, et n'ayant d'autre consolation que la pensée de la ruine. Ah ! Gronda la vieille dame, avec les quelques réparations et changements dont nous sommes convenus, je puis dire que les chambres me plaisent beaucoup et que je les prendrai si vous répondez d'une façon satisfaisante à mes dernières questions, ainsi que je l'espère, et si nous pouvons nous entendre sur le prix, ce dont je ne doute pas. Quelle est votre religion, madame ? Ah, Bilikin. Protestante ou catholique ? Je ne vous tromperai pas, madame, bien que cette question ne soit pas de celle qu'on adresse souvent à une maîtresse de maison. Je suis protestante jusqu'à la moelle des os, et j'espère que vous en serez satisfaite, répondit la Bilikin, peu troublée en réalité par cet exorde. Oh, très bien, très bien, très bien en vérité. Et naturellement, vous allez à l'église le dimanche ? Cette chronique ne prétend pas être responsable des actions de Mademoiselle Twinkleton, dont on pouvait attendre mieux, pas plus que celle de Bouton de Rose, de laquelle on pouvait s'attendre à tout pendant le catéchisme qui suivit. Si Mademoiselle Twinkleton ricana souvent, avec une certaine raideur naturelle à son âge, pas assez haut cependant pour qu'on le remarquât, et si Rosa trouva matière à pouffer dans son livre, sans en lire un seul mot, et plus follement que ne doit le faire une jeune fille, nous répétons que nous n'en sommes pas responsables. Sur la question relative à l'église, Madame Bilikin, légèrement embarrassée et terriblement frissonnante, avec des symptômes de spasme, répondit qu'elle était franche comme le jour pour tout ce qui regardait son caractère moral et religieux, mais elle le demandait. Lui était-il possible d'aller à l'église le dimanche matin quand elle avait à vaquer aux soins d'une maison aussi considérable et quand elle jouissait d'une mauvaise santé ? Cette dernière exclamation de la vieille dame semblait indiquer que la réponse ne lui paraissait pas irréprochable, mais qu'on pouvait s'en contenter vu les circonstances. Ah ! Y avait-il des enfants dans la maison ? Ou était-il probable qu'il y en aurait quelques jours ? Ici se produisit à l'autre bout de la chambre quelque chose qui ressemblait assez à une explosion, mais n'insistons point sur cette inconvenance de Bouton de Rose. Madame Bilikin répliqua, elle était rouge et agitée, qu'elle ne voulait tromper personne, mais qu'elle n'avait jamais entendu pareille question de sa vie ni de ses jours, et qu'elle était une femme comme il faut. « Oh ! Pas de piano dans la maison, avec des jeunes filles qui étudient ? Madame Bilikin, revenue à elle, répondit négativement. Ah ! Pas de garçon tapageur, de 6 à 12 ou 14 ans, toujours sur les escaliers, avec de gros souliers crottés ? Réponse comparativement calme. Non. Ah ! À quelle heure la maison est-elle fermée pour la nuit ? La vieille dame avait une raison de faire cette question, c'était la présence et la quantité des objets précieux déjà mentionnés. Réponse avec un retour évident de bonne humeur au souvenir des objets précieux. Ces locataires ne sont pas faciles à mener, on ne peut jamais compter sur eux, et les passe-partout sont de rigueur, mais pour dire le vrai, la maison est toujours fermée à minuit, quelquefois beaucoup plus tôt, jamais plus tard. La Bilikin défiait qu'on entrât dans la maison après 7 heures, quoi qu'on fît. Ah ! Une seule objection. Pouvait-on regarder le personnel de la maison comme respectueux et bien élevé, en sorte que les visiteurs de la dame, qui pour la plupart seraient des personnes de qualité, puissent recevoir ces attentions promptes et courtoises auxquelles elles ont toujours le droit de s'attendre, À quoi Madame Billikin, toute joyeuse à l'idée de voir se terminer la négociation, de devenir la propriétaire de la mine d'or et des autres objets précieux, répondit avec une candeur caractéristique qu'elle avait toujours deux et souvent trois domestiques, très respectables et traités avec assez de libéralité pour ne jamais se plaindre, et qu'elle espérait que ce nouveau renseignement suffisait et que Madame était pleinement satisfaite. La dame grave avait encore une question à faire, peut-être deux, pas davantage. Billikin, pourrait-elle la mettre en communication avec la personne qui recevait ses loyers, afin qu'elle pût s'assurer que ses loyers étaient payés exactement? C'était une chose dont elle pouvait bien être curieuse, car elle avait des objets de grande valeur qui pourraient être assis dans des chambres appartenant à Madame Billikin, au cas où celle-ci viendrait à suspendre ses paiements. En outre, il est toujours désagréable et nuisible d'avoir des officiers de police chez soi. À ce moment, sans qu'on sache pourquoi, Mademoiselle Twinkleton et Rosa se levèrent précipitamment et quittèrent la chambre, en sorte que si elles entendirent la fin de la conversation, ce ne put être que d'une façon peu recommandable, comme qui dirait en écoutant à la porte. Madame Billikin aussi s'était levée. Le sang lui montait au visage et elle commençait à croire que les mines d'or pouvaient coûter plus qu'elles ne rapportaient. De nouveaux symptômes d'évanouissement se révélèrent et arrêtèrent ses protestations indignées. Non, elle n'avait jamais été insultée de la sorte. Elle défiait même les personnes qu'elle ne voulait pas nommer, mais qui étaient aussi venimeuses que des serpents, bien qu'elle n'eût pas, grâce à Dieu, de dents pour mordre, de dire qu'elle eût jamais été en retard pour son loyer. Et cependant, son propriétaire était raide. La dame grave jugea alors nécessaire de couper cette longue phrase et d'accepter cette nouvelle réponse comme satisfaisante. La négociation allait enfin en arriver au point de vue financier qui avait donné à la Billikin de si grandes espérances. Cessant toutes ces questions, la dame proclama que n'étant nullement une personne difficile à contenter, elle se regarderait suffisamment contente et qu'elle prendrait les chambres à l'expiration de la quinzaine, si son prix, qui ne pouvait être autre que libéral, car elle évitait toujours de marchander, si son prix était agréé. Et vous m'offririez 5 livres par semaine, madame, naturellement, avec toutes les réparations et le nettoyage à temps par mois, avec la lumière et le charbon en sus, ce qui est une règle dont je ne me suis jamais départi et dont je n'ai pas l'intention de me départir quand vous me le demanderiez jusqu'au jour du jugement, dit Madame Billikin, ne donnant qu'un seul coup de pioche à sa mine d'or. Elle s'arrêta, épuisée par ses préliminaires et de plus en plus faible au moment où elle aurait dû être la plus forte. « Oh, comme je vous le disais, Madame... Billikin, je prendrai les chambres d'aujourd'hui en 15, toutes les conditions étant remplies à... Voyons, je vais poser la chose en peu de mots, car la vie est courte et nous nous devons des égards les uns aux autres. » À 35 shillings par semaine, sans bougie et sans charbon. La dame grave, dont les mains étaient encore pieusement jointes, ressemblait à la bienfaisance en personne faisant son aumône. Il est même très possible qu'elle se crût la fée bienfaisante de ce temps. Quant à la Billikin, pensait que sa mine d'or se changeait tout à coup en un véritable tas de poussière. Elle avait perdu son temps, elle avait été humiliée devant une personne qu'elle détestait déjà. Aussi n'y a-t-il pas de mots pour peindre l'air menaçant de sa physionomie, où les symptômes d'apoplexie remplacèrent pour un moment ceux de l'évanouissement prochain. Elle poussa un véritable cri de rage, et renvoyant à la tranquille vieille dame les paroles que celle-ci venait de prononcer, elle vociféra « 35 shillings par semaine !» Pour qui me prenez-vous, madame? Et qui êtes-vous? Je voudrais bien le savoir pour me faire trimballer et promener du haut en bas des escaliers pendant une demi-journée et me faire ensuite une offre. Non, je n'ai jamais été insultée d'une telle façon. Jamais de ma vie ni de mes jours. Il vous sied bien de me parler de vos personnes de qualité et de vos objets précieux. quelques tables de bois blanc et des cuillers d'étain, si même vous avez des cuillers, et Dieu seul le sait. Oh ! Ainsi, madame Billikin, vous ne voulez pas accepter ma proposition aujourd'hui ? Peu importe, la vie est courte, mais elle est assez longue pour réfléchir. Je reviendrai demain ou le jour suivant, et je reprendrai encore deux ou trois petites mesures. Peut-être alors serez-vous mieux disposé à profiter de mon offre libérale. C'est plus que l'appartement ne vaut, madame... Ah, Billikin. La grave et pieuse dame se retira du même pas lent et majestueux, sans être le moins du monde troublée par la rage de son interlocutrice. Elle traversa le palier, descendit les escaliers et se dirigea vers sa voiture. Sa promenade se trouvait retardée de plus d'une heure. Elle entendit peut-être les cris qui l'accompagnaient pendant qu'elle traversait le vestibule. La voix de madame Billikin s'était élevée au diapason le plus aigu et ne faisait pas prévoir le moins du monde que cette pauvre dame fût dans un état de faiblesse irrémédiable. « Revenez demain, revenez après-demain, avec votre belle voiture qui est louée à crédit dans une remise, vieille audacieuse. Vous n'oseriez pas reparaître ici, on le sait bien. A-t-on vu l'impertinente me parler ainsi à moi qui tiens ses chambres depuis tant d'années et qui en connaît la valeur à un demi-penny près ? 35 shillings ? Jane ! Jane ! Où êtes-vous, Jane ? Si je vous appelle encore une fois, vous sortirez de la maison et un peu plus vite que cela. 35 shillings !» La plupart de ces apostrophes étaient adressées à la servante qu'on pouvait appeler le porte-châle par imitation des coutumes de l'Orient. La Billikin était alors sur le palier, en route pour son salon particulier, où elle allait se donner la jouissance de l'évanouissement si longtemps réprimé, mais elle avait besoin d'aide dans son état de défaillance afin de se trouver mal suivant les convenances et les règles. Cependant, la servante, en ouvrant la porte, au moment où la Billikin n'avait pas encore quitté le palier, venait d'attirer l'attention de la pieuse dame et lui fournissait l'occasion de semer encore un peu de ce bon grain que l'univers ne saurait recueillir avec trop de reconnaissance. « Ah ! Vous êtes une des servantes ? Oui, madame, répondit la fille avec une révérence qui s'attendait à être payée 3 pence. Sa déception fut un exemple de plus de la vanité des calculs humains. Ah ! Avez-vous toujours des bonnets propres ? S'occupe-t-on strictement de votre moralité ? Avez-vous soin de chasser le policeman de la cour ? Mes bonnets, madame ! Ma moralité ! Le policeman, madame ! Le bonnet injurié de la fille tremblait d'indignation sur sa tête, mais elle ne trouvait pas de mots pour exprimer ce qu'elle sentait, et la vieille dame continua. « Ah, madame... Ah, Billikin, vous permet-elle d'aller à l'église le dimanche, tous les dimanches ? Oh ! Je n'aurai pas le temps, madame, et les souliers et les couteaux à nettoyer. Nous ne sommes que deux, expliqua la fille un peu radoucie, mais je m'ai sortie dans l'après-midi, naturellement, car Mary Ann et moi, en face... Oh ! Vanité que tout cela, enfant, vanité ! Interrompit la vieille. Vos sorties, pourquoi sortiriez-vous si ce n'est pour aller à l'église ? La vie est courte, oh ! Et souvenez-vous que vous avez une âme. Il faut aller à l'église tous les dimanches, 2 fois si c'est possible. Rapportez à madame... Ah, Billikin, ce que j'ai dit. La porte enfin s'ouvrit et la vieille dame grave se dirigea vers sa voiture, peut-être sans entendre la réponse à demi embarrassée de la servante. Elle savait bien qu'elle avait une âme, mais elle pensait aussi qu'on ne serait pas dur dans l'autre monde envers une pauvre fille qui travaillait du soir au matin et faisait de son mieux si elle n'allait pas à l'église 2 fois le dimanche. Et quand même, elle aurait préféré une petite promenade pour respirer un peu d'air frais. Le magnifique valet de pied, cependant, descendit de son perchoir. La vieille dame prit place dans la voiture et Southampton Street, Bloomsbury Square, fut débarrassée de cette écrasante respectabilité saupoudrée de piété incommode. Mademoiselle Twinkleton et Rosa revinrent dans le salon à peu près au moment où madame Billikin, épuisée, se laissait tomber, non loin de là, dans son salon particulier. Elles riaient de tout leur cœur. La charmante Rosa tenait sa fine taille dans ses deux petites mains, comme si elle eût eu peur de la voir éclater. Elle parlait comme une gracieuse perruche, sans cesser de rire, et Mademoiselle Twinkleton, aussi animée mais moins bruyante, essayait de la calmer. « Oh, n'était-ce pas trop absurde ? Et comment a-t-il imaginé cette façon de la punir ? Et comment a-t-elle pu jouer ce rôle, la vieille maussade femme ? Oh, 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 oh. » Nous ne pouvons donner aucune explication plausible de ces derniers mots, mais tout au plus en risquer une qui ne sera pas plus éloignée de la vérité que ne le sont beaucoup d'autres explications. C'est que la vieille dame, n'étant jamais revenue savoir si Madame Billikin avait réfléchi à sa proposition, on peut se demander si cette visiteuse était le type d'une classe singulière de gens qui existent à Londres et ailleurs, lesquels demandent tout et n'offrent rien, ce sont les méticuleux et les avares. Ou bien, si la vieille dame n'était pas un masque, exercée à jouer ce rôle, dont les principaux traits auraient été tracés par le locataire brun et joyeux, capricieux et oisif de la cabine de l'amiral, désireux de venger Rosa et la justice et de faire une petite méchanceté.